Alors effectivement, je fais partie du grand groupe Total, et en particulier d'une des filiales qu'a créée Total et qui est destinée à faire l'exploration du gaz de schiste en Europe. Alors pourquoi faire une filiale sur l'ensemble de l'Europe? Parce que comme je l'expliquerai pendant cet exposé, en Europe, tout reste à faire. On est vraiment au premier balbutiement. Et pour explorer cette richesse et pouvoir la produire, il va falloir eh bien, inventer quel mode de production on veut pour ce gaz de schiste européen. Un mode de production qui ne sera certainement pas un copier-coller de ce qui existe aux États-Unis. On aura l'occasion d'en discuter parce que l'Europe n'est pas les États-Unis. Donc moi, je suis dans le groupe Total depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai un background d'ingénieur géologue, géophysicien. Et bon, j'ai fait, comme tous les ingénieurs de Total, beaucoup de pays, puisque le groupe, qui est la cinquième compagnie pétrolière au monde, est présente dans quasiment tous les pays du monde et dans une centaine de pays pour ce que l'on appelle l'exploration et la production. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du gaz de schiste. Je vais essayer de vous faire partager nos connaissances professionnelles en termes de technique et puis vous donner bien notre vision à nous, industriels, sur l'avenir de cette richesse en Europe. Ce que je vous propose, c'est de partager le temps qu'on aura ensemble en deux parties. Donc une partie, je dirais, d'une grosse demi-heure, peut-être 40 minutes, où je vais vous dérouler mon exposé, et puis ensuite une partie de réponse. Ce que je suggère, c'est que vous gardiez donc vos questions pour la suite. Par contre, n'hésitez pas à m'interrompre, si j'utilise du jargon, comme dans tous les métiers, on a notre langage. Et ben, de temps en temps, malgré mes efforts, je risque d'utiliser un terme qui est pour vous parfaitement obscur. Donc voilà, faites signe et j'essaierai d'expliciter ou de me rendre plus accessible. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit rappel de géologie. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait de la géologie. Ce que vous avez là sur l'écran, là-haut, c'est ce qu'on appelle une section sismique. Une section sismique, c'est une échographie du sous-sol. On envoie une onde sismique, donc une onde sonore, et on récupère, enfin une vibration pour être tout à fait exact, et donc on récupère ce type d'image. Donc c'est une tranche du sous-sol que vous avez là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette section sismique? Qu'est-ce que voient les géologues? Ils voient des niveaux qui sont ici entre eux, au plus profond, on va dire à peu près, alors c'est en secondes, on va dire 4000 mètres, et puis quasiment jusqu'à la surface. Ce niveau, c'est ce qu'on appelle la roche-mère. La roche-mère, qu'est-ce que c'est? Ce sont des argiles qui sont riches en matière organique, qui s'enfoncent au fur et à mesure du dépôt des sédiments au-dessus d'eux, donc qui se déposent au fond des océans, s'enfoncent petit à petit, et par l'augmentation de la température, de la pression, cette matière organique va se transformer en hydrocarbures. Cette roche-mère, c'est ce qu'on appelle les schistes à gaz. Autant vous dire que pour nous, c'est effectivement la roche-mère, c'est la partie importante d'un bassin sédimentaire, puisque c'est là que se forment les hydrocarbures que nous recherchons. Ces hydrocarbures, de par la pression, parce qu'ils sont plus légers que l'eau, vont avoir tendance à migrer vers la surface. Ils vont remonter à travers les terrains perméables, les sables, les grès, les fissures qu'il peut y avoir. Ils vont remonter jusqu'à atteindre une roche imperméable, par exemple un argile, qui va les coincer, et donc ils vont rester stockés, on va obtenir un piège, et donc un réservoir d'hydrocarbures. Et c'est jusqu'à présent ce type de réservoir que l'on forait et qui nous permettait donc de produire les hydrocarbures. On produisait soit de l'huile, soit du gaz. La roche-mère, selon le type de roche-mère, va produire de l'huile et ou du gaz. Et fonction de la profondeur, plus en fait on aura une roche-mère qui sera enfouie, et plus on aura de chances d'avoir du gaz. Donc là, on a ce que l'on appelle les hydrocarbures conventionnels. C'est un terme, je pense, que vous avez dû lire peut-être si vous avez suivi l'actualité du gaz de schiste. On parle du conventionnel et du non conventionnel. Le conventionnel, c'est, pour faire simple, ce que l'on produisait facilement dans le temps. On avait un paquet de sable compacté avec de l'argile au-dessus, on avait un piège, on mettait notre forage là-dedans, et par différence de pression, les hydrocarbures sortaient, on les produisait, tout allait bien. Malheureusement, le bon temps, vous le savez bien, passe vite, et avec la raréfaction de ce type de piège, il a fallu regarder d'autres sujets qui sont devenus ce qu'on a appelé les non-conventionnels. C'est donc les mêmes hydrocarbures, où on verra, certains sont un petit peu différents quand même, mais qui sont piégés de façon différente. Alors, on a ce qu'on appelle les huiles lourdes. Cette fois-ci, on a de l'huile, mais qui est remontée très loin en surface. De ce fait, a été dégradée. On va dire quasiment des bitumes qui sont mélangés, par exemple, à des sables. S'ils ne sont pas très profonds, on peut les produire par forage. Sinon, on est dans des exploitations plus type minière. Ça peut être très en profondeur des réservoirs qui sont, eux, très compacts. Hein, c'est de la borne, comme on dit, dans lequel a réussi à se mettre un peu de gaz. Et là, on va utiliser des techniques qui vont être très similaires à celles que je vais vous présenter après, du gaz de schiste, puisqu'il va falloir aussi fracturer ces réservoirs pour les produire. Si notre roche-mère remonte jusqu'en surface de par les événements géologiques qu'elle affleure, eh bien on aura ce qu'on appelle les schistes bitumineux. Autre, donc l'huile de schiste ou le gaz de schiste, selon la profondeur d'enfouissement de la roche-mère. Un autre hydrocarbure dit non conventionnel, c'est le mot anglais coal bed methane. C'est le grisou, hein, c'est le gaz qu'on trouve par exemple dans les veines de charbon et qui peut être produit. Et puis, bon, on a encore les hydrates de gaz, le gaz biogénique, dont je ne vais pas parler là. Voilà, donc c'est une petite introduction pour vous expliquer le conventionnel et puis le non conventionnel. Donc le gaz de schiste est considéré donc comme un hydrocarbure non conventionnel. C'est du gaz, alors tout de suite, soyons clairs, c'est le même gaz que le gaz naturel qui a été produit à Lac, qui est produit en mer du Nord. C'est principalement du méthane. La seule différence est donc qu'il est resté emprisonné dans cette roche-mère où il est né. Et pourquoi est-ce qu'il est resté emprisonné ? Bien parce que les conditions ont fait qu'il n'a pas pu en sortir. Les conditions de pression en particulier, les chemins de migration de ce gaz font que ce gaz est resté emprisonné dans la roche-mère. Et cette roche, ce schiste donc, imaginez de l'ardoise, hein, on a à peu près ce type de roche, c'est donc quelque chose de très compact, qui a une très faible porosité et qui a une perméabilité quasiment nulle. Je vous rappelle, la porosité, c'est les trous que vous avez dans votre roche, la perméabilité, ce sont les chemins qu'il y a entre ces trous. Nous autres pétroliers, on a besoin des deux. On a besoin de la porosité pour avoir un réservoir qui est plein d'hydrocarbures, mais on a besoin également de la perméabilité pour pouvoir extraire ces hydrocarbures, de façon à ce que quand on fait notre forage, ces hydrocarbures puissent migrer à travers les pores de la roche, entre eux, et atteindre la base de notre forage. Pas de chance sur les gaz de schiste, faible porosité et puis perméabilité absolument dramatique. Vous avez un petit schéma là en bas qui vous montre. Les gaz conventionnels, en général, on va dire autour du Darcy, du pire, le millidarcy. Ce qu'on appelle les réservoirs, le tight gas, c'est-à-dire les réservoirs compacts avec des réservoirs de gaz, on est dans l'anneau Darcy. Le gaz de schiste, on est aussi dans l'anneau Darcy. Donc, un réservoir qui est bien particulier. Un réservoir dans lequel on sait qu'on a du gaz. Vous avez en haut une photo d'une coupe en microscope électronique. Les bulles noires que vous voyez sont les bulles d'hydrocarbures. Vous voyez bien qu'on a des espaces, des alvéoles qui ne sont pas reliés entre eux. Donc, une roche qui possède des hydrocarbures et qu'on ne peut pas produire puisqu'il n'y a pas de chemin pour sortir cet hydrocarbure. Et donc, on va utiliser une combinaison de techniques de production que l'on connaît, qu'on utilise depuis des dizaines d'années, mais qu'on n'avait pas pensé à associer ensemble pour produire ce gaz de schiste. Alors, le premier, c'est le forage horizontal. On reviendra après, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est qu'un forage. Si vous avez une couche de gaz de schiste qui va faire, on va dire, 100 mètres d'épaisseur, vous faites dedans un forage vertical, vous allez pouvoir drainer les 100 mètres que traverse votre forage vertical. Ce n'est pas très intéressant. Si vous faites un forage horizontal qui fait 1000 ou 2000 mètres, vous allez drainer 1000 ou 2000 mètres de schiste à gaz. Donc la première technique qu'on va utiliser, c'est bien sûr le forage horizontal. C'est une technique qui est utilisée depuis presque 30 ans, allez, on va dire 20 ans, dans l'industrie. Pour vous donner une idée, les records de forage horizontal sont détenus, un petit coup de cocorico par les Français et par la société Total, puisqu'en Argentine, en 1991, Total a fait un forage dévié de 13 km. C'est-à-dire qu'en surface, le derrick était à 13 km du point d'arrivée du forage en profondeur. C'est aussi une technique qu'on utilise beaucoup, par exemple, dans tous nos gisements en mer profonde, au large de l'Afrique, où en fait, en mer profonde, on vise des petits paquets de sable. Et donc, ce que s'amusent à faire nos foreurs, c'est forer à l'horizontale et ils slaloment et ils piquent les petits paquets de sable les uns derrière les autres. Donc, l'industrie a vraiment une maîtrise de cette technologie du forage horizontal. La deuxième. On reviendra après sur les techniques de forage. La deuxième technique qu'on va utiliser, c'est la fracturation hydraulique. Pourquoi est-ce qu'on fracture? Comme je vous l'ai dit, il n'existe pas de perméabilité. Et donc, on va créer artificiellement cette perméabilité. On va créer des fissures entre les pores de la roche. Et pour ça, on décrira après cette technique. On va injecter un fluide sous haute pression de façon à fissurer cette roche en profondeur. Les paramètres, alors là j'ai mis des paramètres, on va dire standards, ce qui existe actuellement aux États-Unis en fracturation, mais les paramètres de fracturation, en fait, ils sont définis selon la roche. Selon la roche, on va décider de fracturer plus ou moins, on va être obligé de mettre plus ou moins d'eau, plus ou moins de pression, plus ou moins d'agents, d'additifs, de façon à faciliter cette fracturation. Et ça, on ne le sait que quand on connaît comment est la roche en profondeur. D'où l'utilité de faire des puits d'exploration pour connaître cette roche, pouvoir la mesurer et ensuite adapter les bons paramètres pour permettre la fracturation. Donc la fracturation, c'est une fois dans la vie d'un gisement. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait notre puits, on va fracturer et ensuite le gisement va produire pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sur à peu près, aujourd'hui sur le Barnett, à peu près 50% des forages, il faut une deuxième fracturation quelques années, alors ça dépend, 5 ans, 10 ans après, pour faciliter la production, mais dans beaucoup de cas, en fait, une fracturation suffit en début de production. Malgré cela, le volume de gaz qui est récupéré sur chaque puits est relativement faible en termes d'économie. Et donc, on est obligé de faire plusieurs forages de façon à pouvoir drainer une grande superficie, une grande surface de réservoir. Ce que je vous propose, c'est, je vais, sauf si tout le monde est foreur ici, dans ce cas-là, vous m'arrêtez tout de suite parce que... je vais vous expliquer avec les mains, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un forage. Je vous passerai, si ça veut bien passer, une petite vidéo où on voit un petit cartoon, hein, où on voit un forage et une fracturation. Je vous expliquerai après, derrière, un peu la fracturation, puis on parlera après des produits chimiques et puis de la consommation d'eau, parce que je pense que c'est le sujet qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un puits ? Un puits, vous prenez une longue vue et puis vous la regardez par le gros côté. C'est ça, un puits. C'est un certain nombre de tubes d'acier qui sont encastrés les uns dans les autres et qui vont depuis la surface jusqu'à 2000, 3000 ou 4000 mètres de profondeur. Et ces tubes d'acier, ils sont cimentés ensemble et ils sont cimentés à l'encaissant. Alors, Ces techniques de forage, elles sont bon, outre qu'elles sont bien sûr pratiquées par la profession depuis quand même quelques décennies, il y a une législation là-dessus, c'est-à-dire que quand on veut faire un forage, on doit déposer notre plan de forage à l'administration qui le valide, et donc il y a un certain nombre de règles de métier qui doivent être suivies. Ce qui est important aussi, vous le verrez dans le petit film, c'est que à chaque fois que l'on met un tube d'acier, qu'il est cimenté dans les bonnes pratiques, en tout cas quand on travaille correctement, cette cimentation elle doit être testée. C'est-à-dire qu'on vérifie la différence de pression entre l'intérieur du puits on mesure la pression, on fait circuler, ce qui permet de vérifier que la cimentation est effective et qu'on n'a pas de fuite. Et puis, alors, autre chose qui est importante, c'est que ce qu'il faut concevoir, c'est qu'un puits, en fait, c'est une succession de barrières. C'est à la fois une barrière de pression, on met dedans des bouts pour tenir l'encaissant pendant qu'on fore, et puis une barrière en acier, de façon à isoler le puits de l'encaissant quand on produit. Un foreur, s'il fait un puits, c'est pour pouvoir produire ce qu'il y a au fond, et ce qu'il veut éviter, évidemment, c'est que son puits fuit et que sa production, elle parte dans l'encaissant. C'est absolument aucun intérêt d'un point de vue économique et d'un point de vue environnement, je n'en parle même pas. Donc un puits, c'est conçu de manière à isoler les formations géologiques environnantes, c'est la base même de cette technique. On va essayer de passer le petit film, je ne sais pas où est le clavier. Ben, je voudrais avoir accès aux fichiers qui sont sur ma clé. Voilà, attendez, je vais le faire. Oui, c'est ça, allez-y. Très bien, c'est comme si c'est vous qui l'aviez. Alors, on va voir si ça marche. Oui, c'est peut-être un petit peu de temps. Très bien. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de son, donc ça. Il y a peut-être du son, mais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire le son. Voilà une couche type sédimentaire qui va jusqu'à 4000 mètres. En haut, vous avez niveau aquifère, l'eau douce. La première chose qu'on fait, c'est qu'on isole cette zone-là. On fait une espèce, c'est une espèce de grande cave en béton hein, qui fait parfois 2 mètres de diamètre à peu près. Et puis, on commence notre forage sur les premières centaines de mètres. Donc, ça, vous voyez le derrick. On descend notre premier tube d'acier, on appelle ça un casing dans notre jargon, et on descend un outil qui va le remplir de ciment, qui va remplir plus exactement les parois entre la partie d'acier et la roche en ciment. C'est cimenté, c'est testé, la cimentation est testée. Une fois que le test est positif, c'est-à-dire qu'on a vérifié que c'était étanche, on continue, on refort notre ciment et on descend plus profond. Alors là, on a simplifié, on n'a fait qu'une descente. Bien souvent, il y a 2 fois, 3 fois, 4 casings. On va démarrer un forage au Danemark, on a en surface 5 casings qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on continue, on a fait notre forage, on descend des outils de façon à prendre un certain nombre de mesures de la roche, hein, parce qu'on est quand même géologue et nous, ce qui nous intéresse, c'est connaître parfaitement les terrains que l'on traverse. On redescend, donc là, on va appeler ça, comme le puits est terminé dans le cas présent, on va appeler ça un casing de production. Non, perdu Sylvie, ça c'est le casing intermédiaire, donc on n'a pas terminé notre forage. Donc casing intermédiaire, on descend notre outil, on cimente. Donc le casing d'acier remonte derrière, jusqu'en haut, hein, vous ne le voyez pas, mais ça remonte jusqu'à la surface. Et puis, de nouveau, on redescend, on arrive dans notre objectif qui est dans le cas présent, donc les schistes à gaz, l'objectif qui est noir. On prend des échantillons, on fait des mesures. C'est important d'avoir conscience que, surtout quand on fait de l'exploration, c'est très important pour nous de prendre toutes ces mesures pour bien comprendre la roche qu'on a et pouvoir déterminer les meilleurs paramètres pour ensuite être efficace dans la production et la fracturation de la roche. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre tube en acier, on va mettre des mini-charges qui vont perforer ce tube en profondeur. Donc faire des orifices. Et ensuite, on descend notre fluide de fracturation. Donc 90% d'eau, du sable et des additifs dont on parlera après. On fissure la roche et on produit le gaz. Voilà, vous savez tout sur le forage. On va revenir en un petit peu plus en détail parce que ça serait... J'ai commencé par la salle sur la gestion de l'eau. C'est pas très rusé, mais bon, tant pis. Donc, 90% d'eau dans notre fluide de fracturation. Un des enjeux, et ce n'est pas que dans le gaz de schiste, cet enjeu, on l'a également dans notre exploration, notre production d'hydrocarbures conventionnels, c'est bien gérer l'eau. Bien gérer l'eau, ça veut dire en utiliser le moins possible, ça veut dire la retraiter, la recycler, ça veut dire contrôler les rejets, quand il y a rejets, hein, quand on est en mer, on a des rejets en mer, on a des contraintes et des contrôles, et donc, évidemment, notre eau, on la traite. C'est quelque chose qui est habituel dans l'industrie. Il faut savoir qu'on a souvent en conventionnel des forages qui produisent plus d'eau que d'hydrocarbures. En fin de vie, un gisement produit plus d'eau que d'hydrocarbures. Donc, on sait traiter des quantités énormes d'eau, on sait les traiter correctement. Bon, on sait les traiter, on n'est pas bon tous les deux pour l'Olympia, hein, parce que côté son... On sait les traiter correctement et c'est quelque chose qui est important puisque sur le gaz de schiste, on va avoir besoin de quantités importantes d'eau, mais on va avoir besoin de quantités importantes d'eau une fois, au moment de la fracturation. Après, pendant la production, on va produire de l'eau. On va produire de l'eau que l'on pourra recycler pour utiliser dans d'autres forages de fracturation. C'est ce qui se fait par exemple aux États-Unis actuellement sur le Barnett, où plus de 70% de l'eau de l'ensemble des forages est recyclé, réutilisé pour la fracturation. Le message que je passe ici, c'est pas, vous inquiétez pas, tout va bien, on n'utilise pas d'eau. On en utilise, mais on sait, d'abord on sait s'améliorer, on sait la gérer, et il y a des solutions pour tout. Donc l'eau est un challenge, l'industrie est en train de trouver des solutions, et on est en train d'augmenter encore notre cycle notre capacité à recycler l'eau. On est aussi en train de travailler sur des solutions comme l'utilisation, par exemple, des eaux sales. Aujourd'hui, on a des projets dans un pays européen qui a un vrai problème de gestion de ces eaux sales. On est en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose d'intelligent à faire, à réutiliser ces eaux sales, à les traiter, parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe quelle cochonnerie non plus dans nos réservoirs, donc à les traiter et à utiliser ces eaux sales. Il y a des synergies qui sont possibles. Il y a un modèle à créer sur l'Europe et je pense que l'industrie est bien outillée pour ça. Un petit graphique là de ce que je vous disais, consommation d'eau production d'eau, consommation d'eau, production d'eau. Donc effectivement, besoin de beaucoup d'eau en début de vie d'un forage parce qu'il faut fracturer. Et puis ensuite, on va produire de l'eau et on va pouvoir recycler cette eau. Les fluides de fracturation. Voir un petit peu. Alors, on est à 4000 mètres de profondeur. On a au-dessus de nous 4000 mètres de sédiments. Ça veut dire des pressions considérables. On est à plusieurs centaines de bars. 400 bars, typiquement. On envoie sous pression, 400 bars, de l'eau pour casser cette roche. Si on n'envoyait que de l'eau, dès qu'on arrête en surface nos compresseurs, ça se referme. Ça va, les fissures que l'on va créer, qui ne sont pas, vous imaginez bien, des fissures de plusieurs mètres de large, à cette pression-là, à ces profondeurs-là, on ouvre des fissures qui sont de quelques millimètres d'épaisseur, qui vont être sur quelques centaines de mètres de long. On n'arrive pas à faire mieux. Si on arrête les compresseurs en surface, en dessous, ça se referme. Donc pour éviter que ça se referme, en fait, ce qu'on fait, on met des épontes, hein, on va créer des drains artificiels, on va mettre du sable dans ces fissures. Ce qui fait que quand on arrête la pression en surface, eh bien, les fissures ne se referment pas puisqu'il y a le sable et on crée des drains artificiels. Le problème qu'on a, c'est que si on envoie de l'eau avec du sable, eh bien, Le sable étant plus lourd que l'eau, le sable va s'arrêter en début des fissures. Donc on va créer notre fissure, on va avoir nos paquets de sable qui vont s'arrêter bêtement au début de la fissure, puis il y a l'eau qui va continuer. Donc on n'aura rien gagné, parce que quand on arrêtera la pression, le bout de notre fissure et trois quarts de notre fissure va se refermer, et on aura juste notre tas de sable en début de fissure. Donc ce qu'on veut, c'est pousser le sable le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'on met des additifs qui sont des gélifiants. Donc on va faire une mixture dans lequel on a nos 90% d'eau, on a notre sable, notre sable, et puis on a nos 0,5 d'additifs qui sont principalement des gélifiants. On envoie tout ça. Alors on est bien content, ça y est, notre sable est parti au loin de la fissure. Deuxième problème, c'est que quand on arrête nos compresseurs, tout le monde remonte, le sable, le gélifiant et l'eau. Donc ce qu'on voudrait, c'est que le sable reste dans la fissure. Donc en plus des gélifiants, ce qu'on met, c'est des breakers, dont le but, c'est de casser le gélifiant au moment de la chute de pression. Donc on a les gélifiants, on a les breakers. Tout va bien. On est à 4000 mètres, on a des températures énormes. Qui dit température, dit bactéries. Et en particulier, certaines qu'on n'apprécie pas trop voir dans notre matériel et dans nos tubes en acier. Donc, gélifiants, breakers, et on met également des... je suis désolée, j'ai un trou de mémoire, des produits qui tuent ces bactéries. Voilà, donc trois additifs. On en a un quatrième. On en a un quatrième qui va dépendre de la roche qu'on a. On a parfois des roches qui font des réactions, donc on a souvent des stabilisateurs qu'on met en plus. Donc voilà. On a quatre produits chimiques qu'on met dedans et non pas plusieurs centaines comme on a pu voir sur certaines communications. Et ces quatre additifs donc qui sont injectés dans la roche, ils vont rester dans la roche pour une partie. Et une partie va remonter avec les eaux de production. On va les traiter. On va traiter l'eau de production. Voilà, donc quatre additifs chimiques. Une partie qui va rester au fond dans la roche, donc dans les schistes à gaz, qui sont déjà pleins d'hydrocarbures, ceci étant. Une partie qui va remonter avec les eaux de production, qui vont être traitées en surface. Alors, ces additifs-là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, il y avait un certain nombre d'additifs qui étaient déjà, alors en particulier, je pense au CMC, là, qui est un dérivé de la cellulose, qui était déjà utilisé. Avec toute la polémique qu'il y a eu autour des produits chimiques, l'industrie a essayé de trouver des solutions qui correspondaient aux attentes de la société civile. Donc aujourd'hui, on utilise en particulier la gomme de guar comme gélifiant, ce qui a d'ailleurs d'autres... vous avez dû lire dans les journaux qu'il y a d'autres répercussions, en particulier sur le prix de la gomme de guar. Donc on utilise ce dérivé de la cellulose, qui est le CMC. On utilise, c'était le mot que je cherchais, les biocides... qui sont les produits qu'on utilise dans les désinfectants, c'est les produits que vous avez sous votre évier généralement. On est en train de regarder de plus en plus aussi pour éviter de mettre ces biocides, des traitements par UV de l'eau, c'est-à-dire qu'avant de faire partir l'eau et de la faire remonter, de faire le cyclage de l'eau, on tue en fait les bactéries par UV. Voilà, le message derrière ça, c'est les produits chimiques, oui, il y en a, ils ne sont pas aussi horribles que ce qu'on veut croire. En tout cas, il n'y en a pas des centaines. Ils sont connus. Ce n'est pas caché. Si vous êtes curieux, vous allez sur Internet, vous faites frac focus, vous allez avoir la carte de l'Amérique, vous sélectionnez n'importe quel puits, on vous met qu'est-ce qu'il y a comme produit chimique dedans. Donc, l'industrie, elle ne le cache pas. Et sur l'Europe, il va y avoir probablement un système identique si le jour où on pourra produire du gaz de schiste en Europe. Par ailleurs, la même façon que lorsqu'on démarre un forage, on doit donner notre plan de forage, on doit également donner aux administrations la liste des produits chimiques que l'on met dans nos forages. Donc, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est connu. De plus en plus, l'industrie essaie d'utiliser des produits qui sont compatibles avec l'environnement. Et puis, on évolue, on essaie de trouver des solutions, on essaie de réduire aussi le nombre de produits chimiques. Pour nous, c'est gagnant. Plus moins on utilise et moins ça nous coûte cher. Donc, on est aussi sur cette voie-là. Donc, de nouveau, le message, c'est il y a des problèmes, on les connaît, on les a identifiés, il y a des solutions et on peut les trouver. Alors, quelle est la perception des risques aujourd'hui? Pourquoi cette polémique finalement sur les produits chimiques? Pourquoi les gens sont-ils si inquiets? Et je pense que c'est des questions qui sont légitimes. Du produit chimique, on dit eau, on dit nappe phréatique, c'est vrai que c'est inquiétant. Sur ce petit schéma, on a identifié les trois risques qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature. Alors, le premier, c'est la contamination due à la fracturation hydraulique. Donc, c'est la raison qui est souvent invoquée. Vous allez faire de la fracturation, vous n'allez rien contrôler, vous allez faire des fractures qui vont remonter jusqu'aux aquifères, et vous allez polluer les aquifères. Comme je vous l'ai expliqué, on est à 3000, 4000 mètres de profondeur. Nous, humblement, on arrive à faire des fractures de quelques millimètres sur quelques centaines de mètres. En tant que technicien, on ne croit pas à la fracture qui remonte sur 3000 mètres de hauteur pour atteindre les aquifères. Physiquement, c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors si vous mettez juste à côté d'une grande faille qui va jusqu'à l'aquifère et que vos produits chimiques qui passent par la faille, bah, le but de nos études de géophysique en particulier, je suis géophysicienne, donc j'en ai fait pas mal, c'est de ne pas mettre nos forages dans une faille. Il n'y a rien de pire pour un foreur que de se retrouver dans une faille, parce que quand on est dans une faille, l'outil de forage il a tendance à rentrer dans la faille et à la suivre, et c'est très difficile pour le foreur à contrôler. Donc, une des études les plus importantes qu'on fait quand on étudie l'emplacement d'un forage, c'est de se mettre en dehors des failles. Donc voilà, ça après c'est du savoir-faire et c'est les bonnes pratiques de l'industrie. Deuxième risque identifié, c'est la contamination due au problème d'intégrité du puits. Donc je vais expliquer comment était un puits. Si la cimentation n'est pas bien faite, si elle n'est pas testée en particulier, il y a possibilité effectivement que des hydrocarbures passent entre les différents tubes d'acier et réussissent à atteindre l'encaissant et pourquoi pas les aquifères. Donc là aussi, c'est une question de bonne pratique. Un opérateur, un pétrolier qui travaille correctement, teste ses cimentations les unes derrière les autres de façon à être sûr à avoir une bonne isolation de son puits. Troisième risque qui est identifié, c'est en surface. C'est le déversement, le camion qui se déverse. C'est l'accident industriel habituel. Là aussi, le risque zéro n'existe pas en industrie. Je crois que certains d'entre vous viennent de l'industrie. Ce qui est important, c'est que l'industrie émette des bonnes pratiques, les suive de façon à éviter l'accident et puis soit capable aussi, derrière, de mettre en place les structures en cas d'accident pour parer, enfin pour limiter les dégâts, je dirais. Voilà, donc de trois risques identifiés et aujourd'hui, pour nous, industriels, le vrai risque, c'est le risque industriel en surface. C'est le risque que connaissent tous les industriels, c'est le transport, c'est la manutention. C'est pour nous là où est le risque principal. Et c'est une des raisons en particulier pour lesquelles nos installations aujourd'hui sont par exemple complètement isolées du sol. Quand on fait un site de forage ou un site de production, on met un liner. En fait, on enlève la terre, on la met de côté, on met un liner étanche, on met un système de gravillon. Enfin, c'est des structures qui sont assez complexes de façon à éviter toute percolation de fuite éventuelle, de façon à bien isoler nos zones de production. L'eau, les produits chimiques. Troisième reproche qu'on fait à cette richesse, à la production de gaz de schiste, c'est oui, mais pour pouvoir le produire, vous êtes obligé de faire beaucoup de puits, puisque vous faites des drains, mais vos drains, ils sont limités. Donc, pour arriver à drainer cette grande couche de schiste, vous faites beaucoup de puits. Et beaucoup de puits, ça veut dire dans le paysage, un impact fort. Dans la destruction des paysages, des dérives partout, des outils industriels disséminés dans la campagne. Alors, c'est vrai que pendant qu'on fait la partie exploration, quand on fait un puits d'exploration, ça veut dire de l'ordre, on va dire, d'un hectare qui devient un site industriel. On va mettre un dérique, il va y avoir des camions, il va y avoir du bruit. Mais ça, c'est pendant un temps qui est limité. Je dirais, c'est de l'ordre de... aux États-Unis, j'y étais il y a 3 semaines, bon, ils font des forages, eux, en quasiment 3 semaines avec la frac. En Europe, on va mettre beaucoup plus de temps, surtout au début, parce qu'on n'a pas toute l'industrie parapétrolière qu'ils ont actuellement aux États-Unis. Alors, on va dire que pendant, effectivement, quelques mois, il va y avoir un site industriel qui sera placé à un certain endroit avec des nuisances. C'est temporaire. Ensuite, pendant les 10 ans, 15 ans, 20 ans de production, alors ça, c'est la photo alors pour vous à gauche. Hein, là, vous avez un site de production pendant une frac. Donc, vous voyez, il y a tous les camions bleus, là. C'est tous les camions avec les énormes compresseurs qui font la fracturation. C'est assez impressionnant. Après, la photo du milieu, c'est pendant la période de production. Là, la période de production, qu'est-ce qui reste? Il reste un emplacement qui est délimité pour des raisons de sécurité. Et puis des vannes de production. Une vanne de production, je vais vous montrer des photos derrière. C'est un truc qui fait 1,20 m de haut. Et voilà, bon, il y a un emplacement. Et puis bon, après, ben, on peut mettre des arbres. Enfin, c'est amusant, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, les sociétés, quand ils vont voir les gens, on est dans un autre contexte, hein, aux États-Unis. Hein, les gens, pour un certain nombre, ça ne les dérange pas d'avoir un forage au bout de leur jardin parce qu'ils touchent des royalties. Donc certains récupèrent une telle manne de cette exploitation pétrolière que les compagnies pétrolières, donc les démarchent, ils se mettent d'accord et ils disent, bon ben voilà, on va faire notre site de production dans cette partie-là de votre jardin, de votre champ, dans le golf, vous verrez les photos. Et puis ils ont un catalogue, puis ils disent, bon ben qu'est-ce que vous voulez autour? Alors, je voudrais bien le même mur que ma maison. Bon, on fait le même mur que la maison. Ah, non, moi je préférais une haie d'arbres, voilà. C'est très, très américain, donc il y a des sociétés qui sont spécialisées maintenant pour aller rendre paysager les sites de production. Bon, on n'en est pas là en France, mais il faut être conscient donc, qu'on a des sites qui sont quand même de taille réduite et qui peuvent tout à fait être mis de façon intelligente, je dirais. C'est-à-dire que ça fera partie aussi, je pense, que de la discussion qu'il faut qu'il y ait au niveau de la société civile. On peut très bien mettre un site de production dans une zone industrielle. On ne va pas aller la mettre au milieu d'une zone protégée ou à côté de l'église du village. Ça me paraît un peu assez évident. Et puis, une fois que la production est terminée, donc au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, on remet le site en état. Ça, c'est une obligation. Hein. Là, sur la droite, vous avez un site qui a été remis en état, c'est dans le sud-ouest de la France. Donc, l'opérateur remet le site en état avec un délai pendant lequel on vérifie que la remise en état est faite correctement. En dessous, vous avez un petit schéma. Une des solutions aussi qu'on a trouvées, de façon à ne pas mettre des puits plein la campagne, c'est de rassembler nos puits au même endroit. C'est-à-dire que partir d'un seul site, on va faire des puits qu'on appelle des puits déviés. Donc non seulement ils sont horizontaux, mais ils partent dans différentes directions. C'est-à-dire qu'à partir d'un endroit, on peut faire 4, 6 puits. Donc ça permet de réduire également le nombre de l'impact sur le paysage. Et en tout cas, ça ne sera pas ça. C'est j'ai pris ça d'un prospectus de Greenpeace, qui en plus, faire un petit peu plaisir, un petit peu malhonnête, puisque ce n'est pas du tout de la production de gaz de schiste qui est sur cette photo, je peux vous dire. C'est des sites de taille gaz aux États-Unis. Donc, non, le modèle américain, il ne peut pas s'appliquer en Europe. Il ne peut pas s'appliquer parce qu'on n'a pas la même densité de population, on n'a pas la même législation, on n'a pas les mêmes aspirations, parce que le droit du sous-sol, dans quasiment tous les pays d'Europe, vous êtes propriétaire de votre jardin, mais ce qui est en dessous, vous n'en êtes pas propriétaire. Donc, vous voyez absolument pas l'intérêt d'avoir un site de production au bout de votre jardin, parce que vous n'allez rien gagner. Donc, il va falloir inventer un autre mode de protection, de production qui protégera plus, qui sera sûrement plus concentré. Je dirais, il reste à créer. Là, je vous ai mis quelques photos, j'ai prises aux États-Unis. Donc, en haut, vous avez un derrick. Donc, pendant la période de forage, après ce grand mât, bien sûr, disparaît. Autour, ils ont mis des cloisons anti-bruit qui sont assez efficaces. C'était amusant parce que j'étais là-bas avec des journalistes, donc ils se sont fait un plaisir de rentrer et puis de sortir pour comparer. ils ont été obligés de reconnaître que quand même c'était assez efficace. Donc ils ont maintenant mis en place toute une industrie hein, qui installe les pattes de forage. Donc après vous avez des sites de production. Donc vous voyez là ici là vous avez un petit site de production. Je crois que celui-là je l'ai pris à côté de l'aéroport de Dallas. Bon voilà c'est grillagé. Alors, autre sujet qui fâche, gaz de schiste et impact climatique. Alors là, moi, je me suis référée aux études qui sont sorties au niveau de la Commission européenne. Donc, je vous ai mis les références, elles sont accessibles sur le net, qui montrent que, quel que soit le type de gaz, donc gaz conventionnel, gaz amené par pipe, de toute façon, l'impact en termes de gaz à effet de serre est moins important que le charbon. Aujourd'hui, faut être conscient qu'une grande partie de l'électricité qui est produite dans le monde est produite à partir de centrales au charbon encore, qui ont un impact en termes de gaz à effet de serre important. L'utilisation de gaz, quel qu'il soit, que ce soit le gaz de schiste ou un autre gaz, réduirait considérablement notre empreinte carbone. Bon, on reviendra sur cette slide si vous avez des questions plus particulières là-dessus. Ce qu'il faut, enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces études de teneur carbone des différentes activités industrielles. Ces études qui sont assez compliquées puisque on part de la production de l'énergie jusqu'à sa consommation. Et le périmètre de l'étude est difficile à définir. Est-ce qu'il faut prendre en compte l'énergie qu'il a fallu utiliser pour construire les tubes d'acier du forage ? Enfin, voilà, le périmètre est toujours difficile à prendre en compte. Aujourd'hui, en tout cas, ce que montrent bien les études, c'est que dans le gaz, la principale source de carbone, c'est quand même sa combustion. Et la partie production, elle ne rentre que pour une faible part dans le bilan carbone de ce type d'énergie. Et je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, sur Marcellus, où ils ont fait l'exercice, ils ont montré que la production de gaz par le gaz de schiste ne représentait que 3% de plus d'émissions carbone par rapport à du gaz produit de façon conventionnelle. C'est lié principalement au fait qu'on utilise des compresseurs, des gros générateurs diesel pour pouvoir envoyer le fluide sous pression. Alors, quel potentiel en Europe ? Eh bien, bon, malheureusement, on est quand même assez loin des grands bassins américains, du Barnett ou du Marcellus, qui sont vraiment exceptionnels. Mais en Europe, on a quand même deux grands bassins qui sont riches. Un dans l'Europe de l'Est et principalement sur la Pologne. Et puis un en France. Et vous avez sur la gauche un tableau qui reprend les estimations que peuvent faire les géologues qui sont, je dirais, il y a autant de... c'est aussi incertain que grand. Tant qu'on n'aura pas fait d'exploration, tant qu'on n'aura pas mesuré ce potentiel in situ, tant qu'on n'aura pas fait des tests pour voir si on peut le produire, aujourd'hui, c'est des calculs, je dirais, quasiment de coin de table que font les géologues en disant, ben voilà, j'ai telle surface dans mon bassin de schiste, je sais qu'il a telle épaisseur, je regarde comment ça se passe aux États-Unis et puis je fais en gros une règle de 3. Donc, il est clair que ces valeurs, elles sont vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Aujourd'hui, on est dans une phase exploratoire en Europe et personne ne sait vraiment d'abord s'il y a sujet et quelle est l'ampleur de ce sujet. Ce qu'on subordonne, par contre, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un potentiel qui est important. Je vous ai mis, pour que vous rendiez compte, en dessous, là, les réserves sur lac. Lac qui était le grand gisement de gaz qui s'arrête cette année, hein, qui a permis à la France d'être autonome en gaz pendant 20 ans. L'axe était 8,5 TCF. TCF, c'est des milliards de cubic feet, hein, terra cubic feet. Voilà, donc quand on regarde les quantités technically recoverable resources, donc bon, ce que l'on pourrait peut-être récupérer si on pouvait produire l'ensemble du bassin, 8 TCF, et si on regarde sur la Pologne, on a 187 TCF, sur la France, 180 TCF. Donc il y a probablement quand même une richesse sous nos pieds. Alors, c'est une unité anglo-saxonne. Je me doutais bien que vous alliez me le demander en mètres cubes, mais je n'ai pas fait la conversion. Je peux vous le donner là tout à l'heure, je ferai un petit calcul. Mon problème, c'est que j'avais toutes ces slides en anglais, je les ai traduites, mais j'ai pas tout transformé en unité européenne. Alors ça, c'est le potentiel, je vous ai montré avant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bon, aujourd'hui, vous savez qu'en France, on est bloqué. En Bulgarie aussi, mais ils commencent à se poser de sérieuses questions. Et ils ont l'air d'évoluer un peu comme dans beaucoup de pays en disant on va quand même regarder, tester, puis après on décidera si on veut ou pas produire. Il y a un certain nombre d'autres pays qui se posent le même type de questions, comme l'Allemagne, la Hollande. Et puis il y a des pays qui, eux, ont décidé d'explorer leur sous-sol. La Pologne, bon, s'il y a derrière, vous en doutez bien, une motivation politique, être indépendant du grand frère, grand frère qui est un peu plus à l'est. Le Danemark, où le groupe Total a deux permis. Alors le Danemark, ils sont dans une situation un peu entre les deux, à savoir le gouvernement, ils sont très rationnels, hein, les Danois, vraiment, ils se qualifient comme un peuple d'ingénieurs. Donc ils ont dit, bon, alors on va faire un forage avec Total, on va regarder comment ça se passe, puis après on décidera. Ça, c'est assez rationnel. Nous, en tant qu'ingénieurs, ça nous convient bien, d'ailleurs. Et puis bon, là, aujourd'hui, la population pose d'autres questions, donc le processus va être un petit peu plus long que prévu. Mais voilà, la démarche, c'est ça. On va faire un test, on va faire un forage, et puis on verra comment ça se passe. Alors, sur les taches rouges, c'est du gaz. Sur la tache verte, c'est de l'huile. Hein, donc, dans le bassin parisien, on a plutôt des schistes à huile. Tandis que sur le reste de l'Europe, on a plutôt des schistes à gaz. Question de géologie, sur le bassin parisien, on est moins enfoui. On a une roche-mère qui produit plutôt de l'huile. En termes d'avenir, ça c'est la vision du groupe Total, mais qui est à quelques pourcents près, très proche de ce que font l'ensemble des analystes sur le futur énergétique dans le monde. Ce que l'on anticipe, c'est qu'à l'horizon 2030, une grande part encore de notre énergie viendra des énergies fossiles, et en particulier une croissance du gaz. On estime que presque un quart, finalement, de notre énergie pourrait venir du gaz.
Gaz global.
Aucune idée pour le moment. Tout dépendra si on peut le développer, si la Chine confirme en particulier ses énormes réserves. Voilà. J'ai en tête 20%, mais je le confirme pas là. Petit slide aussi pour montrer aujourd'hui quel est le marché européen du gaz. Gaz provient principalement des pays de l'Est et de la Russie, qui est notre principale source d'approvisionnement en Europe. Et l'autre source d'approvisionnement, c'est principalement le LNG. Donc, en rouge, c'est l'approvisionnement par l'Est et par pipeline. En bleu, c'est l'approvisionnement par LNG, donc c'est le gaz liquéfié, hein, c'est les méthaniers. qui vient soit d'Amérique du Sud, soit d'Afrique, ou d'Afrique du Nord aussi. Et puis, heureusement, on a quand même des réserves importantes en mer du Nord, en particulier avec la Norvège. Mais on est très dépendant. On est très dépendant de l'ensemble des pays de l'Est, pas seulement de la Russie, tout le petit chapelet de, enfin, ces gros pays, de pays, Azerbaïdjan, Kazakhstan. Une autre slide, je trouve frappante, c'est le prix du gaz, justement avec le boom du gaz de schiste. Début du gaz de schiste aux États-Unis, c'est 2005 à peu près. Hein, voilà, oui. 2005, on commence vraiment à avoir une ruée vers l'or américaine. Et quand on regarde donc cette courbe bleue qui est le prix du gaz aux États-Unis, on a une chute qui est vraiment impressionnante depuis 2008. À tel point d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui se sont lancés dans le gaz de schiste, pour certains, font un peu machine arrière parce que le prix du gaz est trop bas pour rentabiliser certains investissements. Donc il va y avoir un rééquilibrage d'offres et de demandes qu'on attend là, dans les années qui viennent. Mais voilà, on sent que ça a réellement déstabilisé le circuit et le marché du gaz. Au Japon, qui est approvisionné sur des contrats long terme qui avaient été négociés au moment des prix les plus forts du gaz, ils sont avec des prix de 15-16 dollars le million de BTU. Et puis l'Europe, globalement sur l'Europe, nos contrats long terme avec la Russie, c'est des prix de l'ordre, on va dire, 10, 11, quelque chose d'assez grossier, de dollars, de millions de BTU. Donc on est entre les deux. Mais bon, il faut se poser la question si les USA continuent leur ruée vers le gaz de schiste avec des prix de ce type, de la compétitivité qu'on va avoir. Alors, d'une part, la compétitivité qu'on va avoir par rapport donc, à des prix aussi bas. Hein. Et puis aussi, il y a un impact, alors c'est un impact environnemental qui a vu jour, c'est que, compte tenu du prix du gaz aux États-Unis, un grand nombre de centrales se sont reconverties donc, au gaz et ont donc libéré des quantités importantes de charbon sur le marché. Charbon qui, du coup, a vu son prix aussi baisser. Et un certain nombre de pays actuellement en Europe, mais pas que en Europe, sont en train de reconvertir leurs centrales gaz, puisqu'en Europe, on est encore à 12 dollars, en centrales charbon. Donc un impact qui est grave hein, au niveau environnement. Donc il est temps que ces prix se rééquilibrent et qu'il y ait des choix qui soient faits clairement au niveau des pays sur qu'est-ce qu'on veut comme énergie et quel mix énergétique on veut pour l'avenir. Pardon ? Ils vont probablement l'exporter. Ils sont en train de transformer les usines de liquéfaction, ils devaient importer du gaz liquéfié. Ils avaient donc des usines qui permettaient de le regazéifier. Et ils sont en train d'inverser le système de façon à transformer ces usines en usines de liquéfaction et pouvoir exporter leur gaz, principalement, enfin probablement vers les marchés japonais d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, ils sont plutôt dans une politique, on transforme tout au gaz. Alors, on voit, par exemple, sur Dallas, leur flotte de bus, parce qu'ils sont quand même des transports en commun, par rapport aux États-Unis, et leur flotte routière, en particulier tous leurs gros camions, sont en train d'être transformés pour rouler au gaz. Ce qui fait qu'aux États-Unis, alors c'est le contraire, aux États-Unis, l'empreinte carbone des États-Unis a chuté de façon extrêmement importante sur les deux dernières années. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques éléments. En tout cas, j'attends vos questions pour peut-être développer des sujets sur lesquels j'ai été un peu rapide.
Bien, merci madame. Donc, on peut passer à la séance des questions. Oui.
J'aurais une question. Hein. Première question. On lit dans les documents que les anciens gisements de pétrole ne sont n'étaient exploités qu'à 30% environ. Pourquoi n'essaie-t-on pas de récupérer les 70% restés sous terre?
Alors, tout à fait. Ça fait partie des contraintes que l'on a de produire au mieux nos gisements, et les gouvernements sont très attentifs à ça, qu'un opérateur ne produise pas les 30% qui économiquement sont peut-être plus intéressants et laisse les 70% en terre. Donc aujourd'hui, en tout cas chez Total, les gisements, on essaye de les produire au maximum de ce qui est possible compte tenu des contraintes économiques aussi. Et alors, tout dépend aussi des gisements. C'est-à-dire qu'un gisement de gaz, vous allez pouvoir le produire à 70-80%. Un gisement d'huile, vous n'allez pas avoir des taux de récupération aussi importants parce que, pour des raisons de capillarité et parce que l'huile est beaucoup plus difficile à extraire de la roche que le gaz. Mais on a aujourd'hui des gros projets de recherche. Total a un centre de recherche à Pau, qui est, je pense, après Exxon, on est le deuxième centre de recherche de l'industrie pétrolière. On a 3000 chercheurs à Pau et on a des axes de recherche très importants là-dessus. Parce qu'on a tout intérêt, nous aussi, bien sûr, à pouvoir produire nos gisements au maximum. Je réponds à votre question ?
Oui.
Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on ne pourrait pas faire du copier-coller en Europe des techniques utilisées aux États-Unis. Alors, les techniques que vous nous avez exposées, est-ce que ça correspond à ce qu'on pourrait faire ou à ce qu'on ne pourrait pas faire?
Alors, j'ai dû mal m'exprimer. Ce que je voulais dire, c'est que le modèle de développement américain qui consiste à multiplier ce qu'on appelle les pads, c'est-à-dire les sites de production, ce n'est pas quelque chose que l'on fera en Europe parce qu'on n'a pas le même environnement juridique. Donc, comme je vous l'ai dit, les gens qui sont propriétaires du sol ne sont pas propriétaires du sous-sol. Donc, c'est difficile d'arriver à obtenir des emplacements pour pouvoir produire. L'autre raison également... c'est la densité de la population. Aux États-Unis, on a quand même des grandes zones désertiques où il est relativement facile de faire beaucoup de forage. Aux États-Unis aussi, ils ont une législation où souvent leurs concessions sont très courtes. On a des concessions de 5 ans, 6 ans. Donc il faut aller très vite, il faut produire. Donc on fait un forage, on produit, on va ailleurs. Sur l'Europe, on a des concessions qui sont des concessions long terme. 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc on a le temps de se poser, de faire un projet qui est un projet plus cohérent peut-être, et justement ce que vous disiez, de pouvoir produire notre gisement au maximum, et pas multiplier des forages qui vont produire que 30% du gisement, et puis ensuite je vais ailleurs. Donc c'est ça que je voulais dire, c'était dans le modèle de développement qui pouvait pas être le même. Et puis même au niveau des études, par exemple, aux États-Unis, faire des études environnementales ou des baselines avant de s'installer, ce n'est pas quelque chose qui est ni obligatoire d'ailleurs, ni courant dans la profession. En Europe, c'est une obligation. Avant de pouvoir implanter, c'est comme quand on implante, une usine, un pont, il y a une enquête publique, etc. Bon. Donc... forcément, on ne va pas être dans les mêmes contraintes, il va falloir, et c'est très bien d'ailleurs, il va y avoir, c'est ce que je disais, il faut qu'on l'invente ensemble, ce modèle de développement en Europe. D'abord, est-ce qu'on a envie de le développer? Ça, c'est la société civile de le décider avec le gouvernement. Et puis, quelles vont être les contraintes qu'on va mettre aux industriels? Et ça reste à définir, sachant que les industriels, eux aussi, ils ont leurs limites. En particulier les limites, c'est-à-dire qu'il faut pas que faut qu'on ait des plannings. Enfin, les gens qui sont montés dans l'industrie, il n'y a rien de pire que démarrer un investissement et ne pas savoir quand est-ce qu'on va le retrouver. Donc il faut qu'on ait des plannings qui soient connus à l'avance. Mais ça reste à inventer, mais ça ne sera pas la photo que je vous ai montrée avec des pads tous les kilomètres. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'avoir ça à côté de chez moi. Enfin, on oublie souvent, c'est souvent une remarque que je fais quand les gens, entre la poire et le fromage, les amis me disent « Ah, fraîchier total hein. !» Bon, je dis « Oui, mais attends, je suis quand même un de tes amis, voilà, je milite dans un nombre d'associations, on est 100 000 à total comme ça aussi, et bah, tous, on n'a pas envie de faire des trucs moches à côté de chez nous. » Donc, faut aussi avoir une certaine confiance dans l'industriel, parce qu'un industriel, c'est pas seulement une société anonyme, c'est des gens qui sont dedans et qui ont envie de...
Il y a des ingénieurs,
voilà. Voilà. Il y a des gens qui ne pensent pas avec leurs pieds.
Comment fait-on un sondage
Comment fait-on un forage horizontal?
À 4000 mètres, comment réussit-on à faire un sondage horizontal?
Ah, ça, c'est effectivement une bonne question, surtout que je vous ai dit qu'on mettait des tubes d'acier là-dedans. En fait, souvent on voit les photos, on a le forage vertical, puis 90 degrés, on a le forage horizontal. Bon, je pense que tous les gens ici qui ont fait un peu de mécanique des matériaux se doutent que ça va être difficile à gérer, ce genre de truc. Donc en fait, la courbe, on la démarre à, je ne suis pas foreuse, mais 1000 mètres, je vais dire, pour 4000 mètres. Et donc en fait, on a un forage qui fait ça. Et en fait, nos tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres, l'acier a une certaine élasticité, hein. Et donc, en fait, on les courbe. Alors après, on joue, en fait, les foreurs, c'est des vrais artistes. Ils jouent avec les pressions de fluide, en fait, pour pousser leur outil et le diriger. Enfin, moi, j'ai vu des trucs absolument incroyables, justement, je disais, sur nos forages offshore, où les foreurs, ils orientent leur forage. Et vraiment, le forage, il fait ça pour aller taper les paquets de sable que les géophysiciens ont imagé avant sur les sections sismiques, quoi. Juste, je vais faire un deuxième coup de cocorico, quoi. On a développé un outil sismique, justement, de visualisation sismique, qui s'appelle SISMAGE, qui est en image 3D, qui est extrêmement pointu et qui nous a permis de nous positionner justement sur tous ces gisements de l'offshore africain qui étaient très compliqués par 4000 mètres de profondeur d'eau par rapport à d'autres compétiteurs. Et cet outil, pour la petite histoire, est utilisé actuellement par la NASA pour l'exploration de Mars. C'est fier.
Est-ce que vous ne pourriez pas nous éclaircir un peu plus sur les formules chimiques, si on peut dire, les différents produits employés, quel genre de produits, quel qui, quelle famille?
Bon. Alors, j'ai pas les formules chimiques. Alors, on a, alors, c'est toujours un grand débat. Nos opposants disent, on ne sait pas ce que vous mettez. On peut donner les familles des produits qu'on injecte. La formule chimique par elle-même, certains contracteurs, certaines sociétés, alors, pour ne pas les citer, les Schlumberger, Halliburton, qui c'est qu'il y a encore, enfin bon, voilà. Pour certains produits, ils les donnent. Pour certains autres, ils sont effectivement réticents, mais ils donnent quand même les grandes familles chimiques qu'ils vont utiliser. Et ces produits, on ne les connaît qu'une fois qu'on connaît la roche. C'est-à-dire que j'ai un problème très concret actuellement au Danemark, où les Danois, la société civile, nous dit « bah oui, voilà, on voudrait savoir ce que vous mettez », et où je suis obligée de leur dire « je ne sais pas, parce que je ne sais pas quelle roche je vais avoir, je ne sais donc pas quel type de gélifiant je dois mettre, je ne sais pas quel type de breaker je peux mettre ». Donc, je peux vous dire, je vais mettre un gélifiant qui est de tel type, mais dans le détail, aujourd'hui, je ne peux pas le connaître. C'est seulement quand j'aurai pris un échantillon, que je l'aurai testé en laboratoire, que je pourrai adapter ma formule. Maintenant, si vous allez sur le site Frac Focus, dont je vous ai parlé aux États-Unis, vous avez, sur pas mal de puits, ils rentrent quand même très dans les détails sur les familles chimiques et donc sur les produits qui sont injectés. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de mystère. L'industrie, elle a bien compris que si elle voulait avancer, il fallait qu'elle retourne certaines de ses cartes parce que c'était bloqué. Et donc, les contracteurs, ils ont dit, tant pis, le secret professionnel, on va perdre de la compétitivité par rapport à d'autres contracteurs, mais comme on est tous dans le même bain, on retourne les cartes. Donc, en particulier aujourd'hui aux États-Unis, Allez sur Frac Focus, vous verrez, il y a l'ensemble des produits chimiques. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de formule.
Oui, c'est dans un autre domaine. Est-ce que le mieux, ce ne serait pas pour lutter contre les gaz à effet de serre, c'est de produire de l'énergie électrique sur les sites eux-mêmes, de stocker et de réinjecter le CO2 sur les lieux de production du gaz?
Alors là, j'ai pas. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a une étude complète technique à faire sur un sujet comme ça, mais. Déjà, ce que j'entrevois, c'est que l'énergie que vous allez avoir besoin pour extraire votre CO2 et le réinjecter va peut-être perdre, enfin, va vous faire perdre une bonne partie de votre rentabilité d'extraction de gaz. On a un pilote de réinjection de CO2 dans le Béarn, hein, à côté de Pau. Bon, c'est pas un problème facile. Hein, c'est pas un problème facile. Et puis stocker l'énergie, comment vous allez la stocker, l'énergie?
Non, mais c'est l'énergie électrique. Hein.
Ah oui, oui, mais enfin quand même.
Vous allez voir. Du sol, on produit, on fabrique une énergie électrique avec un.
Sur place. Oui, mais vous allez avoir. Enfin, au niveau des perditions, si vous avez plusieurs petites unités électriques, parce que ça va être des petites unités, forcément, par rapport à une grosse unité. La vie, c'est non, pas...
dans le pétrole, on n'entend jamais parler de captation et de stockage du CO2, très très peu.
Alors,
dans le charbon, ils le font un peu.
Ouais. Alors, ce que je vous dis, on a un projet et on a un pilote de réinjection du CO2, hein, qui existe. On a montré que c'était possible. On a mis la technique au point. Voilà, ça fait partie de l'évolution, je pense, des technologies et pour le futur. Hein.
S'il y a plusieurs demandes sur la réinjection du CO2, j'ai le conférencier qui va bien dans la Manche. Donc je l'inviterai, M. Dubois, que je connais. Voilà, un géologue qui était le directeur de l'école de géologie. Voilà.
Tout à fait, oui.
La bande des quatre.
Et puis, je vais revenir sur votre question parce que, stockage CO2, mais aujourd'hui, on est aussi dans l'industrie sur d'autres axes de progrès, parce qu'il faut toujours progresser. En particulier, par exemple, on est en train de réduire, l'objectif de réduire à 50% tout ce qui est ce qu'on appelle le flaring, le brûlage en torche. Ça, c'est une émission importante de CO2. Alors, je dirais qu'on s'attaque déjà aux gros trucs sur lesquels on n'est pas propre. Ils ont les choses comme elles sont. Et si on n'est pas propre, ce n'est pas parce qu'on le fait exprès, c'est simplement parce qu'il y a des fois où on n'a pas de solution. S'il n'y a pas moyen d'utiliser le gaz sur place, voilà. Donc on est en train de résoudre déjà tous ces problèmes-là dans nos sites de production. Et ça, déjà, ça va être un énorme gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, le groupe là est bien parti. Je pense qu'on atteindra nos objectifs. En tout cas, c'est là-dessus que l'ensemble, je peux vous dire, que l'ensemble du groupe travaille.
On peut avoir une idée des volumes d'eau que vous utilisez, et puis les volumes de produits chimiques, bon, on les a par déduction de votre tableau. Mais pour un forage, pour une fracturation, pour sortir quelques milliers de mètres cubes de gaz, qu'est-ce qu'on utilise comme
Tout dépend un petit peu du nombre de fracturations qu'on fait. On va dire que c'est de l'ordre de 3000 mètres cubes pour un pack de fracturations. Voilà. Et en général, la moyenne, on en fait de l'ordre de 5. Donc voilà, on arrive aux alentours de 20 000 mètres cubes sur un puits, une fois pour la fracturation. Si vous comparez ça à d'autres industries, le gaz de schiste est l'industrie au mégawatt qui utilise le moins d'eau. Parce que c'est une quantité qui est importante, mais qui est une seule fois, par rapport à d'autres industries qui vont utiliser de l'eau pendant toute la vie de leur processus. En particulier le charbon. Le charbon, l'industrie qui utilise le plus d'eau. Par contre, il y a un vrai problème, parce qu'on a besoin d'une grosse quantité dans un temps très très court. Et c'est sûr que si on a plusieurs centaines de puits qui ponctionnent cette quantité-là, nos opposants se faisaient un plaisir de dire dans le Rhône au mois d'août, il y a un sacré problème. Donc ça veut dire que derrière, l'industrie, elle doit, paré à ça, réfléchir comment elle peut gérer ce problème. Donc c'est tout la problématique de la gestion de l'eau qui est un vrai problème, hein, sur lequel on doit donner des réponses industrielles.
Oui, j'avais une double question. Est-ce qu'il existe d'autres procédés que la fracturation hydraulique? Et puis, deuxièmement, qu'en est-il de la gazéification du charbon?
Alors, d'autres procédés que la fracturation hydraulique, oui. Il existe la fracturation au propane qui est utilisée un petit peu aux États-Unis, mais pas tellement pour le gaz de schiste, d'ailleurs, bizarrement, mais plutôt pour les réservoirs compacts à gaz. C'est une technique qui a beaucoup d'avantages, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre, on va dire. Voilà. En dehors de cette technique-là, non. Pour le moment, il n'y en a pas. Gazéification du charbon, je ne suis pas une spécialiste, donc je préfère ne pas donner d'éléments là-dessus.
Je voudrais revenir sur le problème de l'eau. Vous avez beaucoup de questions pour vous expliquer que vous faisiez peut-être beaucoup, mais qu'on allait la restituer après. Alors, il y a le problème de la pollution de phréatique qu'on voit beaucoup, qu'on a pu voir dans ce qui tombe sur Internet, parce qu'on peut voir à la télévision, il n'y a pas très longtemps sur la 5, me semble-t-il. Alors, est-ce que c'est de l'agitation ridicule où on va chercher des accidents qui ne se produisent plus, ou est-ce qu'il y a peut-être un vrai problème avec des sociétés qui font n'importe quoi en forage et qui ne prennent pas les précautions que vous avez évoquées, en particulier les précautions d'étanchéité des tubes?
Alors,
quand on voit à la télévision ou sur Internet, ouvrir son robinet d'eau et l'enfermer, c'est effectivement spectaculaire et ça beaucoup plus de mal qu'un beaucoup de discours.
Oui, oui, tout à fait. Bon, pour ne pas citer le film Gazland, et d'une efficacité prodigieuse. Voilà, en tant que industriel ou ingénieur, on ne peut pas lutter contre l'émotionnel. Donc, c'est clair que quand on ne connaît pas le métier, qu'on voit ça, ça fait peur. Hein, Bon, alors, on va tout de suite répondre sur le robinet. Hein. Je crois que j'avais fait une... J'avais fait un truc, parce que j'ai la question régulièrement.
Les solutions que vous avez indiquées au départ sont-elles appliquées partout dans le monde?
Alors, les industriels qui travaillent, gérer les gros industriels, oui. Oui, c'est une évidence. Les quelques accidents, et je dis quelques parce que on a beaucoup de mal moi j'en ai comptabilisé 5. Il y a... Je ne sais plus combien de milliers de puits aux États-Unis. On est dans des taux très bas en termes d'accidents industriels. C'est des accidents qui ont eu lieu il y a plusieurs années, au début de la ruée du gaz de schiste. La ruée du gaz de schiste, elle a été faite par des petits indépendants qui ont cru, qui sont mis dans cette niche-là. Je dois avouer que les grosses compagnies, Exxon, Total, tout ça, on a vraiment pas vu le truc, on n'y a pas cru sur le coup. Et qui n'ont pas travaillé sur les règles du métier. J'ai vu en particulier le compte-rendu d'une procédure judiciaire. Ils n'avaient pas cimenté, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ces quelques accidents qui ont été montés en épingle et qui, aujourd'hui, font beaucoup de mal à la profession, c'est clair. Donc, on a eu quelques indépendants qui n'ont pas bien travaillé au début, mais ce n'est pas des centaines de cas. Hein. C'est un petit peu là la difficulté qu'on a. C'est qu'il y a eu très peu de cas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Le seul cas qui est en Pennsylvanie où on a peut-être, et encore ce n'est pas complètement prouvé, une pollution liée à la fracturation hydraulique, c'est un cas où en fait il y a eu un forage et une fracturation qui a été faite, mais qui était quasiment dans l'aquifère. C'est-à-dire que les niveaux de gaz de schiste étaient à quelques centaines de mètres de profondeur, donc dans les aquifères. Et dans cette région, d'ailleurs, il est bien connu qu'il y a du méthane dans l'eau. Et c'est sûr que quand on fracture dans ces conditions, on a toutes les chances, à un moment, de toucher les aquifères. Alors, de nouveau, c'est des questions de bonnes pratiques. Aujourd'hui, en Pennsylvanie, ils ont mis une législation, ils ont dit, ben, les gars, vous ne fracturez pas en dessous, à moins de 500 mètres de profondeur. Voilà. Et c'était un petit peu une évidence au début, mais voilà, il y a des gens qui ont quand même essayé. Donc, on a des cas comme ça, de gens qui n'ont pas travaillé dans les normes, je dirais. Les autres cas de pollution qu'on a, c'est des pollutions de surface, donc des fuites en surface, des camions qui fuient. Et pour régler son clou à l'eau dans le robinet qui nous casse tous les pieds, nous, industriels, depuis maintenant 3 ans, cette image-là, je suis désolée, je le dis, elle est profondément malhonnête. Ce gaz-là, ce n'est pas du gaz de schiste, c'est du gaz biogénique, c'est le gaz que vous avez dans les marais. Il y a eu des études qui ont été faites, ça fait le tour du monde, donc autant vous dire que les compagnies américaines, elles y ont mis le paquet pour comprendre ce qui se passe. Du coup, les autorités ont fait aussi un tas de commissions. Ils ont fait l'analyse du gaz, c'est du gaz qu'on appelle biogénique, c'est du gaz donc de surface qui est créé par destruction de la matière organique par des bactéries et qui n'a absolument pas la même signature géochimique que le gaz qu'on appelle thermogénique, qui est le gaz que je vous expliquais, qui est formé en profondeur par augmentation de la pression et de la température. Donc cette image, c'est le gaz des marais, c'est les feux follets. Dans la région, tout le monde sait qu'il y a du gaz dans l'eau, c'est connu. Il y en a en Pennsylvanie, il y en a en France aussi, hein, du gaz comme ça, hein, dans l'eau, hein, dans l'Hérault, il y a ça. Pardon ?
Dans les marais Poitevin.
Dans les marais au Danemark aussi, j'en ai, etc. Donc, bon, voilà.
Est-ce que la fracturation...
C'est très important de le dire.
Merci.
Est-ce que la fracturation hydraulique permet d'extraire l'huile des schistes huile ? C'est la première question. Et la seconde, quelle est l'ordre de grandeur de la température à 4000 mètres ?
Oui, c'est ça. 10 degrés par 100 mètres. 100.
10 degrés 4... par 100 mètres.
On est dans ces profondeurs-là. C'est un peu moins que ça. Hein. J'ai un gros trou là. C'est 30 degrés. C'est 30 degrés. Non, c'est moins que ça. Le degré géothermique, le gradient des géothermiques, c'est 30 degrés par 1000 mètres. Ça, oui, 30 et 30, 4 fois 3, 12, ça fait 120 degrés, oui. Ouais. Non, non. Alors après, ça dépend, il y a des régions qui sont plus chaudes, des régions qui sont moins chaudes. Mais on est dans des températures qui sont de l'ordre de 150 degrés.
Alors l'extraction de l'huile ?
Alors l'extraction de l'huile, oui, on peut produire de l'huile à partir des schistes. C'est plus difficile parce que l'huile, je dirais, elle colle plus à la roche. Donc il faut faire circuler des fluides de façon à pouvoir la décoller, si je puis dire. Donc c'est une extraction qui est plus difficile et plus coûteuse.
Et quelle certitude a-t-on ?
Oui, en fait, moi je voulais simplement peut-être amener une information parce qu'on a parlé beaucoup de volume d'eau qui a été utilisé. Vous avez parlé de 10 à 20 000 mètres cubes pour une série de fracturations.
Pour un puits, oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde industriel, une papeterie va consommer ça par jour. J'ai des exemples de ce type. Un site chimique, par exemple le site chimique Rond-Poulenc au sud de Lyon, à Roussillon, va consommer 20 000 mètres cubes d'eau par jour. Et de l'eau qu'il va rejeter dans le milieu naturel, bien sûr, après traitement. Mais ça permet de comparer les choses. Un canon à eau pour arroser du maïs, ça va consommer 1000 mètres cubes d'eau par jour. Donc c'est 10 jours de production, l'équivalent d'une fracturation. Donc ça permet de relativiser aussi un peu tout ça, c'est quelques exemples.
Il y a 2 ans, quand on avait démarré cette problématique, je vous remercie de ces chiffres, on avait fait notre petite enquête aussi et... On avait par exemple regardé les canons à neige, la consommation pour nettoyer les voitures par an en France, enfin, c'est les golfs, premiers impressionnants. Bon, alors on ne voulait pas se mettre à dos à la fois les automobilistes, les golfeurs, les skieurs, donc on n'a rien dit, mais si vous comparez les chiffres, effectivement... Bon, ceci étant, soyons honnêtes aussi, hein, ça c'est sur un puits. Si on exploite du gaz de schiste, on multiplie ça par plusieurs centaines de puits. Bon, après, c'est toute la gestion de l'eau, comme je disais, recycler, utiliser de l'eau, voilà, faire un plan d'utilisation de l'eau qui soit intelligent et respectueux.
Pour en revenir à la France, on a vu qu'il y avait un gros gisement dans l'Île-de-France, dans la région parisienne en tout cas. Alors, compte tenu de la densité de population, compte tenu que c'est surtout de l'huile, est-ce que c'est réellement envisageable d'espérer faire une exploitation de ce gisement ?
Écoutez, je ne connais pas bien le bassin parisien. Je vous rappelle que nous, notre permis était autour de Montélimar. Donc nous, c'était plutôt du gaz qu'on cherchait. Ceci étant, le bassin parisien, oui, il est peuplé, mais il y a quand même des grandes zones non peuplées. Je suis dans le parc naturel du Vexin, je peux vous dire, ça va, la densité de population, elle est supportable. Donc voilà, il y a la place aussi pour mettre des sites de production. Et alors je ne vous ai pas montré, mais quand j'étais à Dallas, il y a des sites de production au milieu de la ville et on ne les voit pas. Enfin, c'est assez impressionnant. Ils arrivent à les mettre entre deux immeubles. Sur l'aérodrome de Dallas, il y a des sites de production. Quoi, il y a le parking des avions, il y a le site de production juste à côté. Donc,
bon. C'est l'Amérique.
Voilà. Oui, ce que je veux dire, c'est que... après, il faut savoir... Il faut mettre un cadre à tout ça. Savoir ce qu'on veut. Et puis de dire, ben, ça, on accepte de développer comme ça, on ne l'accepte pas. Puis après, c'est à nous, industriels, de trouver les bonnes solutions.
J'ai une autre question qui n'est pas directement liée au gaz de schiste et au gaz en général. J'ai lu plusieurs articles sur le fait qu'on aurait sous-évalué les fuites en tête de puits. C'est-à-dire, je parle du problème du méthane. Mm-hmm. Vous savez que le méthane, un négatif vis-à-vis de l'effet de serre qui est 25 fois celui du CO2. On commence à s'inquiéter, on parle surtout du CO2, mais on commence à s'inquiéter de la montée du méthane. Et donc, dans toutes les sources de méthane, il peut y avoir simplement les fuites au puits d'extraction, aussi bien conventionnel que de gaz de schiste. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le sujet ?
Alors, c'est le graphe que vous avez en haut à droite, où en fait on a rassemblé là, on l'a pris dans une publication de la Commission européenne c'est la DG Climat, donc c'est la Commission européenne pour l'impact climatique. Ils ont recensé l'ensemble des études qui avaient été faites justement sur l'impact en termes de gaz à effet de serre. Alors en particulier la fameuse étude de M. Howarth, qui est celle qui va le plus loin là, qui a déclenché cette polémique sur les gaz à effet de serre, puisqu'il en déduisait que la production, que le gaz de schiste émettait plus de gaz à effet de serre que le charbon. Et ensuite, vous avez toutes les autres études qui sont venues lui dire qu'il n'avait peut-être pas pris les bonnes hypothèses. Et alors, en particulier, M. Howarth, ce que vous voyez, c'est la partie qui est en vert. Il y a une partie en vert qui correspond à la gas transmission, on a appelé ça. C'est le moment entre votre tête de puits et puis le moment où vous utilisez votre gaz. Donc il y a la partie tête de puits, puis il y a la partie pipe. Et en fait, il avait utilisé comme exemple à l'époque, de ce qu'on a compris, des modèles qui venaient de l'ex-URSS, qui n'étaient pas complètement étanches. Du coup, il s'est retrouvé avec des résultats qui étaient pas corrects. Et la partie en bleu, parce que je vous ai dit des bêtises, la partie en vert, c'est uniquement le transport, et c'est dans la partie en bleu où il a aussi surestimé ce qui était justement les fuites en tête de puits. Alors, il est clair que, enfin oui, bah oui, il y a, je ne connais pas beaucoup d'outils industriels qui arrivent à tout calfeutrer. Il y a des fuites, on y arrive.
Il y a des fuites mais... depuis, il y a beaucoup de puits, donc ça fuit beaucoup. Quoi.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des fuites, mais il est clair que l'objectif du pétrolier, c'est de les limiter.
C'est
parce que c'est de l'argent qui part. Donc elles ne sont pas, elles sont pas importantes comme c'est marqué dans, dans les publications. Et au, je suis en train de chercher le chiffre. Aujourd'hui, on est en dessous des 2%, tout compris transport, compresseur de transport et fuites diverses.
Je change complètement de sujet, c'est ça. Pour faire un sujet régional. Et ça, c'est une question qu'on m'a demandé de poser puisque la personne n'a pas pu venir à la conférence. Ici, on a, quand on dit schiste, ça nous fait penser à une ville qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Autun. Et donc, il y a eu une exploitation de schiste en extrayant les schistes mécaniquement et en faisant le traitement à l'air libre. Évidemment, maintenant, c'est arrêté depuis un certain temps. Est-ce que, disons, dans les, beaux, les belles cartes que vous nous avez montrées, on n'a pas vu la région d'Autun dans les belles taches jaunes qui était prometteuse. Alors, est-ce que vous savez s'il y a des velléités de faire des recherches dans nos régions morvandaines ? Voilà.
Alors, je n'ai pas une connaissance parfaite de votre région, mais ce que je pense savoir, c'est que les schistes au Rotin sont des schistes métamorphiques. Et donc, on n'est pas. Alors, il y a un problème sur le terme, parce que ce qu'on appelle schiste en géologie, voilà, ce qu'on appelle schiste en géologie, c'est des marnes qui, sous l'effet du métamorphisme, c'est-à-dire des montées granitiques, ont chauffé et sont devenues ce qu'on appelle donc les schistes. Le terme gaz de schiste est faux en fait, puisque ce ne sont pas des schistes, ce sont des argiles. Et d'ailleurs, le terme. Je m'excuse, je vais shell en anglais, c'est plutôt argile que schiste. Je n'ai pas voulu vous.
On est là pour apprendre.
Voilà.
Hein,
donc, en permanence. Donc le terme exact, ce serait des argiles à gaz. Hein, voilà. Mais voilà, en France, on a appelé ça des gaz de schiste. Alors, au début, on avait commencé à lutter contre ça en disant des argiles, et puis les opposants ont dit « Ah, vous essayez de camoufler le sujet. » Non, bon, d'accord, allez, le gaz de schiste, on n'en parle plus. Donc voilà, mais effectivement, ce n'est pas des schistes, tandis qu'à Autun, c'est bien des vrais schistes, donc de l'ardoise.
Voilà. Bien, une dernière question, et on va s'arrêter là, puisque le train de Madame Duflo il approche à grands pas. Il faut pas que je rentre sans pain, sinon elle va me disputer. Voilà.
Non.
Moi, je veux bien la poser.
Oui.
Ça y est, j'ai oublié quelque chose que Bruno a dit.
Est-ce que vous avez tout dit tout de suite aux États-Unis, vous avez une installation entre deux avions, au milieu des maisons, on peut tout de suite poser la question, donc ça craint rien? Ou est-ce que ça craint quelque chose? Est-ce que ça, un jour ça peut péter à la figure du voisin ou est-ce que c'est vraiment de pression?
Non, d'abord on n'est pas sur des pressions importantes en tête de puits. Hein. On n'est pas sur des pressions importantes en dette de puits. Et puis aujourd'hui, les vannes qui ferment les puits sont des vannes qui sont des vannes à très, très grande sécurité. Hein. C'est tout le matériel pétrolier qui a été développé pour travailler par très grande profondeur, donc dans des conditions extrêmes. Non, enfin oui, aujourd'hui on est dans des conditions de sécurité parfaites.
Bien, merci madame. Je vous demande de l'applaudir très fort. Je vous remercie de votre participation et de nous avoir consacré une après-midi pour vous donner toutes ces informations. Je pense que nous avons appris des choses et des choses qui se sont clarifiées dans nos esprits. Merci.